Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous emmène à Versailles, dans le château, sans file d'attente ni visite guidée, aux côtés de Sacha Guitry. Le palais ouvre ses portes et vous convie à réfléchir. Comment Guitry, homme aux marivaudages sentimentaux sur scène comme à la ville, en vient-il à se passionner pour l'histoire de France? Et comment son travail de cinéaste s'apparente-t-il, dans son chef-d'œuvre de 1953, au travail de l'historien? Si Versailles m'était compté, eh bien Versailles vous est compté. Aujourd'hui, sur les chemins de la philosophie. Allez, en route.
On nous dit que nos rois dépensaient sans compter, qu'ils prenaient notre argent sans prendre nos conseils. Mais quand ils construisaient de semblables merveilles, ne nous mettaient-ils pas notre argent de côté ?
Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Vous êtes professeur d'histoire du cinéma à l'École normale supérieure, l'auteur d'un livre intitulé « L'histoire caméra » publié en 2008 chez Gallimard, et puis un ouvrage consacré à Jean-Pierre Melville, « Une vie » qui sort cette semaine hein, d'ailleurs aux éditions du Seuil. Je disais que si Versailles m'était compté, le film de Sacha Guitry était un chef-d'œuvre. Est-ce que c'est exagéré ou justifié ?
Guitry, c'est toujours une question de point de vue et de. Il y a des amoureux de Guitry et il y a des gens qui haïssent et qui trouvent que Guitry, ce n'est pas grand-chose.
Bon, vous êtes un amoureux.
Moi, je suis plutôt un amoureux de Guitry, oui, absolument. C'est une assez longue tradition dans la critique française. Un peu minoritaire, bon, elle remonte par exemple à François Truffaut, qui a beaucoup défendu, notamment si Versailles m'était compté, mais il faut savoir que c'est un film qui a été énormément attaqué, et notamment par les historiens, qui est quand même... défendre l'histoire, la vision de l'histoire et le récit de l'histoire par Guitry dans si Versailles m'était compté, c'est quand même une sorte de provocation, il faut en avoir conscience.
Alors, qu'est-ce qui passe par la tête de Guitry pour qu'en 1953, il décide de s'installer au château de Versailles pendant 2 mois, le tournage a lieu en plein été, ce sont 2 mois étouffants pour tourner cette histoire de France à partir de Versailles.
C'est un vieux projet, un vieux désir, un vieux rêve même de Guitry. Je pense que dans le générique, il y a une succession de cartons qui disent « Un film de Sacha Guitry mis en scène par l'auteur au château de Versailles, ainsi donc ». Les décors sont de Mansart et les jardins sont de Le Nôtre. Je pense que ça dit tout du désir de Guitry. Voilà, il voulait être une sorte de d'artiste comme ça de la gloire du royal et donc tourner une histoire de France à partir du château de Versailles, c'était quelque chose qu'il a toujours désiré faire. Alors, il a failli le faire. Il raconte qu'il a failli le faire 2 fois pendant l'occupation, ce qui aurait été, dit-il, avec une certaine provocation, aurait eu un certain panache comme ça de raconter la gloire de la France au milieu de la France occupée. Le projet ne marche pas et il faut en fait tout un concours de circonstances qui font que en 1953, le château est quasiment en ruine. Voilà, il y a vraiment des gros problèmes de restauration. L'État n'a pas la possibilité, la financière. Le ministère des Beaux-Arts est un ministère relativement pauvre, et donc il y a une sorte d'accord qui est passé entre les Beaux-Arts, le château et Guitry, la production de Guitry. On vous donne le château pendant 2 mois pour tourner ce film que vous produisez avec vos fonds, ce sont des fonds privés, mais les bénéfices du film vont servir à la restauration du château. C'est donc une sorte d'accord. Il y a beaucoup de rumeurs ou de malentendus un petit peu sur cela, puisque on a qualifié le film de film officiel. Ce qui n'est pas complètement, puisque le financement n'est pas un financement public, hein, c'est un financement privé. Ce qui est public, c'est évidemment la présence du château et cette sorte de chance absolue que Guitry a récupéré comme ça au vol, c'est de pouvoir avoir le château à lui pour tout un été, comme il disait, j'ai adoré faire semblant d'être Louis XIV. Voilà.
Eh bien, écoutez-le, parce que vous reprenez ces mots. Vous avez parlé des critiques qui ont été émises à son sujet, De toutes parts, elles sont venues, de la droite, de la gauche, de l'État, des historiens, de ceux qui étaient contre l'État, justement, bref, on y reviendra. Laissons la parole à Guitry, puisqu'on a la chance de pouvoir l'entendre, parce que de ce film est né un récit, et Versailles vous est conté, on peut se procurer ce CD-là. Écoutez Guitry donc raconter comment finalement il s'identifie, non pas tellement à Louis XIV, mais à Versailles, au château lui-même.
Donc faire semblant d'être Louis XIV, en principe, non. Mais faire Versailles, en principe, oui. Et l'occasion pour moi s'en présenta trois fois. La première fois, ce fut pendant l'occupation. Avec l'appui du ministère des Beaux-Arts, glorifier la France au nez des occupants, rien ne pouvait être plus tentant. Le producteur, hélas, brave homme s'il en fut, qui s'adressait à moi, était des plus primaires. Et cela rendait nos entretiens fort difficiles. Le film, en conséquence, en était resté là. La seconde proposition, durant cette période, réunissait 10 producteurs qui s'associaient pour faire Versailles. L'idée était de moi, elle était merveilleuse, mais elle n'était pas bonne. On ne met pas d'accord 10 hommes exerçant la même profession. La troisième proposition, la dernière, la bonne, me fut faite en avril dernier, un soir, par téléphone. Elle était cependant sérieuse. Gilbert Bokanowski s'associait avec Clément Duhour pour me demander de faire un film sur Versailles avec l'assentiment des Beaux-Arts. Et dès le lendemain, nous étions tous d'accord.
Donc faire semblant d'être Louis XIV, en principe non, mais faire Versailles, en principe oui, et pas seulement en principe, dont acte, puisque le film va avoir lieu. Antoine Debecq, dans votre ouvrage, en l'histoire caméra, auquel vous consacrez un chapitre à Si Versailles m'était compté, vous allez jusqu'à dire que du château de Versailles, Guitry est l'unique cinéaste.
Ah oui, c'est vrai que c'est un rêve qui s'est matérialisé une seule fois. Alors, des films dont certaines séquences et plus généralement, je dirais presque des plans ont été tournés à Versailles. Ça, il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs dizaines. Mais souvent, Versailles joue le rôle d'une sorte de preuve historique. Comme ça, un plan suffit. Voilà, le plan matérialise le fait que c'est tourné à Versailles. Et puis le reste, pour des raisons de budget, pour des raisons d'impossibilité d'un tournage pendant la saison touristique, pour des raisons aussi de sécurité, je dirais de le côté trésor public national mondial de Versailles, tourner à Versailles, c'est très 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 compliqué, et tous ceux qui l'ont fait de façon un petit peu plus étirée, c'est-à-dire sur quelques jours, ont à chaque fois vu les conditions de tournage à Versailles, ont regretté d'une certaine manière de le faire. Quelqu'un, Tavernier, racontait que ça avait été quelque chose pour lui, une sorte d'enfer, hein, de tourner à Versailles, ne serait-ce que quelques scènes, hein, peu nombreuses, mais des scènes qui lui restaient en travers de la gorge de, alors que la fête commence. Mm-hmm. Voilà.
Alors donc, que Guitry lui a intégralement.
Alors Guitry lui. Ça fait partie du contrat, hein, qui est à la base de son projet, c'est-à-dire voilà un côté donnant-donnant. On vous donne Versailles pendant un été et vous nous donnez les bénéfices de la recette. Et bénéfices il y a, puisque le film est un immense succès.
Plus de 6 millions de spectateurs se déplacent dans les salles pour voir ce
absolument
film.
700 000 à Paris et 6 millions en France. Bon, il y a plusieurs raisons. D'une part, la popularité de Guitry, hein, c'est un cinéaste et surtout une sorte de personnalité comme ça qui est très connue, qui cristallise aussi les passions, c'est-à-dire les polémiques s'embrasent très souvent autour de Guitry, c'est une sorte d'homme public comme ça, et puis d'autre part, c'est quand même, on peut dire, le plus beau casting, comme on commence à le dire, la plus belle distribution possible internationale, hein, voilà, entre Orson Welles, Jean Marais, enfin tout le gratin du et le Gotha du cinéma français et mondial défile dans le film. Ça, c'est la force de Guitry. Quand Guitry demande à Orson Welles de venir faire une pige sur dans Versailles, une journée de tournage au château, Welles accourt, bien sûr. Donc voilà, c'est quand même un un film qui a un budget raisonnable, important mais raisonnable, et un succès immense. Et donc, une partie de la restauration, du travaux de restauration de Versailles va pouvoir être payée par la production et le succès du film, qui lance ce mouvement qui n'a pas cessé depuis, hein, de patrimonialisation de l'histoire française, et Versailles en est un petit peu un des symboles.
Voilà, vous parlez de patrimonialisation de l'histoire française. C'est quelque chose qui est très important pour Guitry. Avant d'entrer plus précisément dans le film, d'ouvrir le livre avec le narrateur, puisqu'on voit premier plan Guitry qui se saisit d'un livre qu'il va ouvrir et raconter, conter Versailles. Avant donc de faire le pas et de sauter dans le livre, c'est-à-dire dans le film, rappelons que pour Guitry, ce n'est pas son premier film à vocation historique, et même au contraire le tout premier film de Guitry. En 1915, Ceux de chez nous a un film qui a une valeur patrimoniale dont le but est de filmer les gens connus, les artistes à l'œuvre de son époque, pour figer leur existence et faire en sorte qu'on puisse s'en souvenir plus tard. Il y a une visée quasiment pédagogique et quasiment d'historien.
Absolument. Il y a en tout cas l'idée de constituer les archives de la gloire nationale, de la gloire française. Guitry, a une partie de son œuvre est consacrée à ça. Alors, ce qui est intéressant dans Ceux de chez nous, ou dans un certain nombre de films et de procédés comme ça qui sont faits très tôt, hein, dès 1915, donc au moment du cinéma muet, c'est qu'ils mettent en place un système qui va être toujours celui de Guitry 40 ans plus tard, quand il tourne Versailles, c'est-à-dire sa voix omniprésente, ce qu'on pourrait appeler le film commenté, puisque Ceux de chez nous est un film évidemment muet, puisqu'il est tourné en 1915, donc il représente effectivement les grands artistes français. On y voit Renoir, Monet, on y voit Rodin, on y voit voilà tous les grands
Degas, sont là. Degas, Rostand, Sarah Bernhardt,
les grands
France.
Acteurs, les grands écrivains, on les voit au travail, ce qui est aussi quelque chose de très important pour Guitry, c'est-à-dire que ils sont pas en train de parler, puisqu'on ne pourrait pas les écouter, ils ne sont pas en train de ils sont pas en parade, en mondanité, mais ils sont au travail. Donc on voit les peintres voilà, devant leur chevalet, on voit les écrivains à leur table de travail, les acteurs sur scène. Et tout cela est dit, en quelque sorte, par Guitry. C'est-à-dire que Guitry faisait fonctionner le film, disons, sur ce principe du film-conférence. C'est-à-dire qu'il avait mis au point une tournée à travers la France qui lui permettait, pendant la guerre et après la guerre, hein, c'est un film aussi très nationaliste, au sens, voilà, montrons aux Allemands la gloire de la culture française. Hein, il y a quelque chose qui est très, très, très important pour Guitry de ce côté-là. Il a toujours été très anti-allemand. Donc cette gloire de la culture française, c'est à la fois les gens qu'on voit à l'écran, et c'est la parole de Guitry. Donc ces films fonctionnaient comme ça. Guitry faisait une conférence pendant que sur l'écran on pouvait voir le film. Donc des dizaines de milliers de spectateurs ont assisté à des conférences de Guitry avec un support visuel comme ça extrêmement présent, et ce système où Guitry parle sur des images muettes, c'est un système qu'il va conserver tout au long de son cinéma. Et voilà, le film peut-être le plus célèbre de Guitry, Le Roman d'un tricheur, est un film dit, hein, c'est-à-dire que les images sont muettes, ou alors légèrement sonorisées, ou quelques scènes sont dialoguées, mais la plupart du film est un film dit, commenté par Guitry. Et donc, on va retrouver dans Si Versailles m'était compté, à peu près un tiers de ce qu'on entend dans le film est dit par Guitry.
Voici l'hôtel Biron, magnifique demeure, vraiment digne de lui, que Rodin habitait et qui depuis sa mort est le musée Rodin. Et voici Auguste Rodin lui-même qui vient à notre rencontre. Dans un instant, vous le verrez dans son atelier où il se promène comme un fauve. Je dois avouer que ce statuaire de génie ne comprenait pas très bien ce que j'étais venu faire chez lui ce jour-là. L'avant-veille, à déjeuner chez moi, je lui avais dit que je viendrais mercredi vous immortaliser. Il avait souri, mais ce jour-là, il me disait « Appelez ça comme vous voudrez, ce n'est jamais que de la photographie. » Quand la prise de vue commença, il ne s'en rendit pas compte. De temps à autre, il me disait « Vous me direz de m'arrêter quand vous serez prêt pour que je ne bouge plus. » Je l'avais prié de ne pas m'adresser la parole, mais il n'en tenait pas compte. Heureusement d'ailleurs, car à brûle-pourpoint, il m'a dit ce jour-là « Figurez-vous que mon maître fut Carrier-Belleuse. Il avait beaucoup de talent, il m'a donné des conseils, mais plus tard, j'étais obligé de les lui rendre. » C'est à cause de l'incompréhension coléreuse des gens devant une œuvre magnifiquement originale que la statue de Balzac par Rodin n'a été acceptée qu'après 40 ans de lutte, il y a cela 10 ans à peine. Même on ne trouvait pas la somme nécessaire pour payer le fondeur, puisqu'on m'a fait l'honneur de s'adresser à moi. Je regrette seulement qu'on n'ait pas accordé au Balzac de Rodin l'endroit de Paris que je m'étais permis de solliciter pour lui, c'est-à-dire devant l'Institut. Oui, puisque l'Académie des Beaux-Arts n'avait pas cru devoir accueillir Auguste Rodin, et puisque l'Académie française elle-même avait laissé Balzac à la porte, il eût été plaisant de le voir là, dehors, immortel, véritable, et lui tournant le dos.
Ce qui est fascinant avec Guitry Antoine de Beck, c'est que même en l'écoutant, on imagine très bien ce qu'il y a à l'écran. C'est comme si l'image était secondaire, alors quand on regarde le film, on comprend très bien la fonction de l'image, et elle est loin d'être secondaire.
Oui, c'est quelque chose que Guitry a assez savamment mis au point, c'est-à-dire que il y a comme une sorte de jeu constant entre une parole qui est elle-même remplie d'images à travers les mots de Guitry, et puis une image qui est souvent filmée tout à fait frontalement, simplement. Il y a chez Guitry un souci comme ça de à la fois chacune d'une certaine façon l'image et le texte et les mots peuvent être compris de façon autonome et en même temps voilà quand l'un et l'autre fonctionnent ensemble comme dans ces films conférences ou comme dans le cinéma parlant de Guitry ensuite il y a une sorte de connivence extrêmement forte qui en fait un objet qui n'est pas redondant. C'est quand même très étrange parce qu'on pourrait imaginer, et c'est ce que bon ceux qui n'aiment pas Guitry, c'est ce qu'ils disent, à quoi ça sert finalement d'avoir les images puisque c'est du théâtre, puisque c'est des mots, c'est la voix de Guitry. Non, je pense que le théâtre, les mots, la voix de Guitry, elle est là et elle est absolument singulière, elle a cette puissance propre, mais les mots appellent les images et les images ne vont pas sans les mots. Il y a quelque chose qui est vraiment un système unique qui voilà qu'on pourrait rapprocher un petit peu de Pagnol. Pagnol est un peu contemporain de Guitry, disons, qui à travailler avec le même souci, ce rapprochement des images et des mots. Voilà, Pagnol était complètement obsédé par la prise de son. Il dirigeait les films à l'écoute. Hein, on sait, Pagnol dirigeait les films, dirigeait la mise en scène depuis le camion de la captation du son. Bah, Guitry, c'est un peu pareil. Il dirige les films depuis, disons, le cabinet d'écriture. Il y a quelque chose comme ça. Mais en même temps, voilà, c'est pas parce que les films sont dirigés depuis le camion du son ou depuis le cabinet d'écriture que ces films n'ont pas besoin d'images. C'est la force du cinéma de Guitry ou de Pagnol.
Et Guitry veut montrer vraiment l'image où l'artiste en train de se faire. Il accorde beaucoup d'importance à la dimension technique, même artisanale du cinéma. Il parle beaucoup de l'éclairage, de l'électricité. Quand il filme Rodin, c'est Rodin dans son atelier, à l'œuvre. Il y a un côté, vraiment, il veut mettre les mains à la pâte du cinéma pour en faire quelque chose.
Absolument. Ça, c'est quelque chose de très important pour Guitry. Et ça se voit dans tous les génériques de Guitry. C'était quelqu'un qui était très... À la fois c'est Guitry, c'est-à-dire unique comme ça, une sorte de prince, de isolé, solitaire, narcissique. Et en même temps, il adorait être entouré, par exemple, des artisans d'un film. Il adorait être entouré au théâtre des techniciens et il avait un rapport très direct, très démocratique avec ce qu'il considérait être une sorte de communauté de travail. Et donc il aime filmer ça et c'est ce qui monte dans ses génériques à chaque fois. Le troisième assistant a le même carton ou le même commentaire puisque souvent les génériques de Guitry sont dits, ils sont commentés, voilà. Et j'ai travaillé avec un tel et les décors sont de Mansart. Et ben ça pourrait être les décors sont de Tartempion, mais Tartempion est aussi important que Mansart et Mansart est aussi important que Guitry. Il a son carton à lui et donc oui ça c'est quelque chose de très important. Et Guitry quand il filme les corps, ils sont au travail. Les courtisans courtisent, hein, d'une certaine manière, les peintres peignent, voilà. Et donc c'est ça qui intéresse Guitry. Ce n'est pas la péroraison comme on pourrait penser, le mauvais théâtre, hein. C'est plutôt mettre ses mots à lui sur les corps et les corps au travail plus particulièrement.
Ça, c'est pour ceux de chez nous, et c'est indéniable. En revanche, dans si Versailles m'était compté, donc là, on est plus de 40 ans, enfin presque 40 ans plus tard, on n'est pas simplement dans un film patrimonial qui veut garder ou figer pour l'éternité des instants d'une époque donnée. On pourrait dire, en tout cas, c'est ce que vous dites, Antoine de Beck, dans votre livre, encore une fois, l'histoire caméra, que Guitry, dans si Versailles m'était compté, fait œuvre et travail d'historien, qu'il y a donc un projet d'historien qui lui tient à cœur et que le film lui permet d'exprimer. Vous allez jusque-là.
Oui, je vais jusque-là et c'est un peu provocateur. Puisque la première chose qui se passe quand le film sort en mars 1954, c'est une sorte de curé des historiens hein, qui se précipitent, qu'ils soient de droite, de gauche, grands historiens reconnus ou petits tâcherons de l'histoire, pour dénigrer et pour dénoncer le film. On ne cesse de corriger la copie d'histoire de Guitry. C'est quelque chose. Truffaut parlait des cuistres solennelles hein, et il a c'est la défense de Truffaut, c'est sauver Guitry des cuistres solennelles. Et donc voilà, ces cuistres solennelles, en même temps, ils n'ont pas absolument tort. Il faut bien le dire, quand on voit si Versailles m'était compté, on peut comprendre, par exemple, que le duc de Brissac, qui est le historien royaliste, académicien, président des Amis de Versailles, soit outré par un film comme ça. Il dit, le duc de Brissac, un film inconvenant, l'alcôve est partout. Donc évidemment, représenter la monarchie française pour un royaliste comme le fait Guitry, c'est quelque chose de scandaleux. Et les communistes, évidemment, ne supportent pas la manière, par exemple, dont Guitry traite la Révolution française, hein, réduite à une émeute de ménagères qui dansent et chantent à Trianon. Ou une mascarade, voilà, on retrouve des attaques sans cesse contre Guitry qui viennent de droite, de gauche, ou aussi de la plupart des grands historiens, en tout cas des historiens, disons, de la corporation des historiens qui sont mobilisés, par exemple Henri Michel, qui est un petit peu voilà l'historien officiel, on va dire, qui est grand résistant, donc évidemment en 53-54, c'est une voix qui porte une conception de l'histoire ridicule et puérile. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à tout ça ?
Et même, il va plus loin. Le premier grand reproche qu'on doit faire à ce film, c'est d'afficher si clairement l'impossibilité pour l'écran de saisir autre chose que l'anecdote ou l'image d'Épinal. Et c'est la désinvolture avec laquelle l'imagination de l'auteur renverse le cours des faits, invente des dialogues, fait se rencontrer des personnages. Bref, une fois de plus, un succès commercial récompense une œuvre dont l'effet sur les esprits ne peut être que nocif, tant elle est génératrice d'erreurs. Mais cela, Guitry le sait bien.
Mais bien sûr, et Guitry l'assume d'une certaine manière. Et par ailleurs, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que le film est bourré d'anachronismes.
Qu'il revendique.
Et voilà, alors ça c'est... Alors comment est-ce qu'on peut défendre un film comme Si Versailles m'était compté ? Alors Guitry effectivement l'a revendiqué, il y a un texte où il se dit lui-même historien. Je peux lire 2-3 lignes de ce texte hein. Suis-je moi-même un historien ? Oui. Mais à la façon d'un peintre, je suis un historien comme le fut Louis David quand il composa son magnifique tableau intitulé « Le Sacre de Napoléon », où l'on voit trônant au centre Madame Laetitia, alors que notoirement, la mère de l'empereur était à Rome ce jour-là. Son absence est un fait, et c'est peut-être un fait historique. Ne désapprouvait-elle pas en effet ce couronnement de Joséphine par son fils ? Quant à moi, je l'ignore, et David, informé, a très bien pu se dire « la question n'est pas là, parce que ce fait n'est pas le sujet du tableau ». Donc voilà, l'idée c'est d'être non pas fidèle à ce qu'on pourrait appeler une chronique des faits historiques, mais recomposer en quelque sorte l'histoire pour lui donner un sens.
Prenons un exemple, un exemple de recomposition de l'histoire par Guitry dans ce film, la mort de Louis XIV. Hein, on a l'article de la mort. Celui-ci reçoit son architecte et lui donne des indications en mesure métrique, alors que c'est la Révolution qui allait instituer le système métrique. Écoutez.
Puis ce fut l'agonie, la mort et l'autopsie. Affreux détail, on détailla le roi de France. Ses entrailles furent portées à Notre-Dame de Paris. Son cœur fut déposé au couvent des Jésuites par le duc de Sully. Son corps, enfin, fut déposé à Saint-Denis. Mais chose à peine croyable, parce qu'il fallait être prudent, Louis XIV n'eut pas d'obsèques. Le plus grand roi du monde quitta Versailles nuitamment. Que craignait-on ? Des crises hostiles ? La colère déchaînée d'un peuple mécontent ? Non, pire que cela. Ce que l'on redoutait sur son passage, c'était un tressaillement de joie, un cri de délivrance, et plus encore que tout, des danses et des chants d'allégresse. Et Massillon, ce jour-là, eut l'audace ou bien le courage de prononcer ces mots fameux devant la dépouille du grand roi.
Dieu seul est grand, mes frères. Et voilà donc l'instant où l'homme n'est plus rien de ce qu'il croyait être.
Alors voilà comment il concilie la vérité factuelle historique avec l'imagination. Là, c'est l'extrait après, donc le moment où le roi va recevoir l'architecte et les incohérences historiques. On a ici une description de ce qui s'est passé. C'est réel et en même temps, on voit bien qu'il y a une espèce de poésie insufflée par Dutrieux. Voilà, du corps décomposé.
Voilà, je dirais, voilà, du roi détaillé, comme il
c'est
dit.
Ça. Mais,
d'abord, ce qu'il faut dire et ce que moi j'adore, c'est la façon dont Guitry assume le fait d'être un mauvais élève de l'histoire. Hein, il revendique donc ses anachronismes et ses fautes. Il y a une désinvolture qui, chez lui, évidemment, vire à l'élégance. Hein, il y a une sorte de souveraineté par rapport aux faits historiques. Les faits sont cela, mais moi, je vais vous raconter l'histoire comme ceci. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, alors là, pour reprendre l'expression de Truffaut, renvoie les cuistres solennelles vers le néant. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, disons, de très seigneurial, élégant. C'est la classe, finalement, pour moi, Guitry, quand il revendique d'être un mauvais élève de l'histoire. La deuxième chose, c'est qu'il y a chez lui le refus, c'est pour ça que j'employais l'expression recomposition, il y a le refus de la reconstitution historique. Alors la reconstitution historique dans les années 50, c'est vraiment pas mal de films du cinéma français ou de la télévision naissante qui voilà sentent le décor et le pseudo-décor vraisemblable sont absolument ligotés, on va dire, par les faits historiques, par et qui en même temps voilà tout fait toc, quoi. Et rien ne devrait faire toc. Alors que chez Guitry, il y a cette manière de mettre à distance, c'est-à-dire qu'il assume complètement l'artificialité de son histoire. Voilà, dans sa signification il signifie le passé, mais en assumant, l'artifice complet, le sorte de. Alors, lui, il ne travaille pas sur le registre de la farce, comme d'autres, mais sur celui de la comédie, hein, de la comédie légère, effectivement de l'anecdotique, et il y a une façon chez lui de faire histoire sans nous y transporter, que je trouve à la bonne distance, quoi. Presque, il y a un côté presque un peu brechtien, chez Guitry, c'est-à-dire il est à la distance où on peut voir l'histoire comme chez Brecht c'est comme une farce, ou chez d'autres cinéastes, hein, chez un cinéaste comme Hans-Jürgen Sieberberg par exemple, dans son Hitler, un film d'Allemagne, il a reconstitué le Troisième Reich comme une sorte de jeu de marionnette, d'une sorte de farce, d'opéra farcesque, un peu comme Brecht a pu le faire avec l'opéra de Katsu. Ben Guitry fait un petit peu le même travail de distanciation, de mise à distance de l'histoire à travers le mode comme ça de l'artifice de la comédie qui est complètement assumé. C'est un divertissement et il l'assume complètement. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est une juste distance par rapport à l'histoire, même si elle est totalement réinventée, on va dire. Et puis, moi, ce que j'aime dans Si Versailles m'était compté et qu'on comprend très bien en écoutant Guitry parler du film. Et là, ça rejoint toute une tradition historiographique de ce qu'on pourrait appeler la grande histoire ou la grande sociologie de l'histoire. Hein. Guitry nous fait absolument comprendre comment la Versailles a été le cadre de la société de cour, c'est-à-dire de la domestication de la noblesse. Tous ces grands du royaume qui sont devenus en quelque sorte Alors voilà, les historiens de l'époque disaient, mais tout ça c'est le point de vue du laquais. Mais oui, exactement, et Guitry l'assume complètement, c'est-à-dire que voilà, les grands du royaume, les princes de sang sont devenus les domestiques, les laquais, les courtisans, et c'est ça la grande, la force de la royauté française, c'est d'avoir transformé les seigneurs batailleurs de devant laquelle se trouvait la monarchie française au XVIe siècle, de les avoir transformés en courtisans. Et là, voilà, Guitry, en proposant cette sorte de comédie de cour, il est tout à fait dans le sens de ce qu'a pu écrire Norbert Elias sur la société de cour. C'est vraiment quelque chose qui, d'une certaine manière, est extrêmement proche. Sauf que, voilà, Guitry le fait avec ses mots, avec son art de la mise en scène, mais d'une certaine façon, il est dans un discours qui est absolument parallèle à celui d'un grand historien sociologue comme a pu l'être Norbert Elias.
Ça, c'est la critique de la gauche, hein, dire que Guitry a sur les hommes qui passèrent par Versailles le point de vue des laquais. On le lit, c'est Georges Sadoul dans L'Humanité en 1954
qui écrit ça. Communiste,
ouais. Voilà, et qui va jusqu'à dire l'histoire de France se réduit pour lui, pour Guitry, à des secrets d'alcôve ou pis de chaises percées. Les mobiles de l'histoire ne trouvent place pour lui que dans les parties basses des grands hommes. En clair, il minimise l'ampleur de la Révolution.
Oui, alors, bien sûr, il y a cette idée que la Révolution n'est finalement qu'une sorte de mascarade, de grand carnaval, et qu'il est voilà, qu'elle est juste bonne à mettre en valeur quelques chansons, voilà, comme le Ça ira, comme ça, c'est des choses. Alors effectivement, on trouve ça chez Guitry, et en même temps, je pense que c'est là, on est dans une sorte de contresens historique quand on lit Guitry comme ça. Le point de vue de Guitry, c'est de montrer justement que Versailles est devenue une société de laquais, de courtisans, avec cette sorte de hiérarchie et de publicité de tous les rituels courtisans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la Révolution, elle intervient comme une sorte de d'irruption dans le film. Alors bien sûr, elle est jouée voilà par Édith Piaf, elle est en quelque sorte starifiée, incarnée comme ça par une sorte de vedette de music hall. Mais en même temps, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très juste, j'allais dire historiquement. En tout cas, il y a une sorte de vérité d'avoir fait faire irruption à Versailles au milieu des courtisans, quelqu'un comme Édith Piaf, c'est une magnifique idée.
On a fait le même reproche à Benoît Jacquot il y a quelques années quand il a filmé justement, il a fait son film à Versailles, voilà, dans le château de Versailles, en disant mais il ne filme que les histoires de fesses.
Les adieux à la reine. On a fait le même reproche à Chantal Thomas quand elle a écrit ce magnifique livre aussi, oui. Moi, je pense que Versailles se prête absolument à ça, puisque c'était la fonction même de Versailles. Versailles, c'est la grandeur pour domestiquer la noblesse, c'est la grandeur pour réduire les nobles à l'état de laquais.
Sire, voilà 100 ans que le peuple a quitté les faubourgs de Paris pour venir à Versailles. Sire, voilà 100 ans que vos peuples sont là. Voilà 100 ans qu'ils se détachent de la France et qu'ils n'ont plus le goût pour les métiers qu'ils font. Or, c'est précisément cette désaffection qui me paraît si grave. L'ouvrier n'achève pas son travail. Il dit « Oh, ça ira ». Le paysan répond « ça ira, à force de dire ça ira, je crains qu'un jour il ne le chante, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. »
La croissance entre nous promet qu'on va nous accorder du pain. Et qu'ils entretiennent des cadins. La croissance en qu'on nous écrase. Assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra.
Quelle surprise Antoine Debecq quand même quand on est en train de regarder le film et on entend cette tirade magnifique qui passe de la parole à la chanson et quand tout d'un coup on voit le visage d'Edith Piaf qui est debout sur les grilles du château de Versailles avec une espèce de montage qui fait qu'on voit son visage en train de chanter cette chanson et puis la foule derrière les grilles et puis le roi de son côté. C'est tout simplement Edith Piaf qui interprète une chanson au beau milieu du film.
Absolument, ça c'est quelque chose que Guitry aimait beaucoup faire, c'est une sorte de ready-made comme ça où il place les gens dans leur propre rôle, exactement comme il avait filmé Rodin au travail.
C'est ça.
Et ben, il filme Edith Piaf au travail.
En costume
d'époque. Qu'est-ce que c'est Edith Piaf au travail? C'est qu'elle chante. Et donc voilà, c'est une idée, moi je trouve que c'est une idée magnifique. Et puis en plus, c'est pas seulement le fait de tout d'un coup d'avoir le Saïra amené comme c'est amené, comme ça par les bons mots de Guitry. Alors on peut trouver ça un petit peu quand même tiré par les cheveux, un petit peu. On sent le procédé, quoi. On sent la fabrication. Ça c'est un peu le défaut qu'on peut faire à Guitry. Il est d'une élégance parfaite, mais on sent quand même que c'est fabriqué. Mais tout d'un coup, Edith Piaf qui grimpe sur les grilles de Versailles. Il y a quand même quelque chose du souffle de révolutionnaire. C'est pas réduire la révolution à la mascarade. Je pense que là, Georges Sadoul se trompait. Il était aveuglé par ses préventions politiques. Pour beaucoup de ces, notamment des communistes dans l'après-guerre, Guitry était quand même marqué par une sorte d'infamie qui est une injustice, hein, de son, ils avaient devant eux une sorte de collaborateur ou en tout
cas. Oui, mais alors pour être tout à fait juste, vous citiez le duc de Brissac, donc cette fois-ci, historien royaliste, hein, ouais, et président des Amis de Versailles, il lui fait exactement le même reproche.
Absolument.
Hein, il dit, ce film est inconvenant dans tous les sens du terme. L'alcôve est partout, gênante, obsédante. Guitry met l'accent sur l'équivoque, exploite le scandale, travestit nos rois, les grands serviteurs du pays et réduit même la Révolution française à une mascarade. C'est même critique.
Mais ça, c'est intéressant parce que ça pointe quelque chose qui est tout à fait une des forces du film, hein, et qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on n'a pas vu à l'époque, c'est l'idée que Guitry est d'une certaine manière inclassable. C'est-à-dire que le fait qu'il soit attaqué de droite, de gauche, de partout, ça confirme cette idée que pour lui, l'histoire de France, elle est faite par tous. Et ce qui est important à Versailles, et ce que montre Versailles, c'est une forme de, je dirais, d'engendrement successif. Hein. L'histoire, c'est un engendrement successif. C'est-à-dire que Guitry a fait le choix de ne pas choisir quel est le régime qui incarnerait la France. Et la temporalité de Guitry, elle est celle-là. Elle est celle de dire que bah, Versailles, finalement, c'est bien sûr, ça a été construit par la royauté, c'est le château des rois, mais c'est aussi le château que s'est approprié le peuple au moment des journées d'octobre, comme Edith Piaf le chante. Et c'est ensuite le château de la République, c'est le château de tous les régimes politiques jusqu'à Guitry. Guitry s'est très très bien entendu avec le ministère des Beaux-Arts, justement, donc 4e République. Il aurait pu faire le film avec tout le monde. Et donc c'est à la fois, disons, Guitry est toujours du côté, en quelque sorte, du côté du manche. Il est toujours du côté des puissants. Il ne choisit pas son régime. Et c'est aussi une sorte de vision de l'histoire qui, moi, j'aime beaucoup cette temporalité de longue durée, comme ça, du pouvoir politique. C'est tout à fait juste sur Versailles. Donc le film, il est tiré entre, d'un côté, l'histoire dérisoire, la temporalité la plus minimale qui est celle de l'anecdote, hein, de l'anecdotique, et puis de l'autre côté une temporalité étirée comme ça jusqu'à couvrir l'ensemble de l'histoire de France, de la longue durée, de l'engendrement successif des régimes. Et donc il y a une sorte de régime de temporalité très complexe dans le film, et ça c'est une des forces du film et il faut absolument le reconnaître. Et d'une certaine façon, pour que ce film fonctionne comme ça, c'est-à-dire comme un engendrement continu de la France, hein, il y a un côté « le roi est mort, vive le roi », hein, dans le film, il faut qu'il soit, d'une certaine manière, cette histoire, elle est faite de toutes les coucheries successives. Voilà, cet engendrement...
C'est au sens propre du terme
aussi.
Oui,
je pense au sens propre du terme. Les histoires d'amour sont comme enchâssées dans la continuité historique du film. Et toutes ces coucheries, toutes ces alcôves que dénoncent à multiples reprises les historiens en voyant le film, c'est le sujet de Guitry. Mais qu'est-ce que ça produit, ces coucheries, ces alcôves? Ça produit l'histoire de France par cette forme très étrange qu'est la temporalité comme ça de longue durée où à peine un régime est mort que le suivant renaît des cendres du précédent.
Alors peut-être faut-il préciser que l'accueil de ce film a été très mitigé de la part de certains critiques, hommes politiques, historiens, aussi parce que quelques années avant, 10 ans avant, Guitry avait réalisé un film dont on ne sait pas trop quoi faire, un film, on était en 1942, qui semble être à la gloire de Pétain, que Guitry défendait ouvertement.
Hein, comme il sait tellement les Allemands. Comme une grande majorité de Français.
Sans doute. et donc il propose ce film très étrange, on va entendre un extrait, puis vous nous direz ce que c'est ensuite Antoine de Beck, de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain.
Ce visage de Jeanne est l'œuvre de Despiau. Le texte qui l'accompagne est de Pierre Champion. Un autographe de Comines, un dessin de Fouquet, le roi Louis XI, dessin original de Bernard Naudin, le texte est de Paul Fort, un autographe de Bayard, la page de François Villon, la fontaine des innocents par Jean Goujon. Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français.
Bon, on vous épargne les 49 minutes qui suivent cette minute-là, hein, parce que bon, là, on est quand même bien loin du roman d'un tricheur ou de Faisons un rêve. On a la voix assez monotone de Sacha Guitry, voix off, donc évidemment, qui commente pendant une heure un livre qu'il tient ouvert, il tourne les pages et c'est tout.
Oui, mais d'une certaine manière, c'est assez proche de ce que de Si Versailles m'était conté. Le livre s'ouvre au début, se ferme à la fin, et au milieu, il y a des acteurs et une histoire dans Si Versailles m'était conté. Mais le principe est le même, c'est-à-dire, c'est cette idée d'une sorte de continuité fondamentale que l'histoire française. Elle part à de Jeanne d'Arc, elle arrive à Philippe Pétain, puisqu'on est en 42-43, elle arriverait au général de Gaulle si Guitry avait vécu jusqu'en 1960, hein. Guitry ne choisit pas. Et donc, il est dans cette idée que la France, elle est incarnée à la fois par ses artistes et par ceux qui nous gouvernent.
Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français.
Voilà, absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose, sorte de pétition de principe. Et la clarté de Guitry, c'est ici qui est d'une clarté qui a été relue comme une sorte d'ambiguïté fondamentale.
Hein, bah, il a été arrêté à la Libération.
Hein. Ah bah,
il a
oui,
passé 2 mois.
C'est sûr que d'avoir fait ce film et de l'avoir revendiqué. Et Guitry était, d'une certaine manière, avec une forme de fausse naïveté, on va dire, de rouerie un peu naïve, disait, mais quel est le problème? Voilà. Et c'est vrai, ça devient un problème vu le contexte de la Libération.
Bah, il a rencontré les Allemands quand même aussi pendant cette période-là. Il dit que c'était à leur invitation, mais il y est quand même allé, donc.
Disons que Guitry c'est une de ses constantes. Il a toujours, il a toujours mis en avant la gloire de la France et il a toujours été anti-allemand. Mais c'est vrai que les Allemands étant au pouvoir, il a fait aussi le film avec ceux qui sont au pouvoir. Non pas, c'est pas un film allemand de propagande nazie, absolument pas. C'est simplement un film, qui assume, cette continuité historique qui fait que en 1942-43, le pouvoir, il est du côté de la collaboration. Donc, ça ne veut pas dire que Guitry est un collaborateur, mais il est du côté du pouvoir.
Il est relâché au bout de 2 mois.
Il y a un premier non-lieu. Et d'ailleurs, ce que Guitry a une expression très belle. Il dit si Versailles, le succès de Si Versailles m'était compté, ces 6 millions de spectateurs, c'est mon deuxième non-lieu. C'est mon second non-lieu. C'est ma réponse à l'histoire. C'est ma réponse aux historiens. Moi, je voulais aussi rajouter une dimension historique du film qui est. On a entendu tout à l'heure la mort de Louis XIV. Hein, ce roi qui est. Qui est détaillé, comme il dit, les affreux détails, on détailla le roi de France, ses entrailles à Notre-Dame, son cœur chez les jésuites, son corps à Saint-Denis, donc ce démembrement du corps du roi. Il y a quelque chose qui est évidemment important chez Guitry dans l'incarnation même qu'il peut faire de l'histoire. C'est-à-dire que, Guitry a joué à plusieurs reprises des rois de France. Il joue ici Louis XIV. Et d'une certaine manière, il fait don de son corps à l'histoire, à son film.
Un corps vieillissant, malade.
Mais oui, c'est Guitry, en filmant la mort de Louis XIV, filme sa propre disparition. C'était un homme malade. D'ailleurs, il dit à un moment, ce n'est pas beau à voir. Hein, on l'entend dire ça. Alors, il parle de Louis XIV, évidemment, mais il parle aussi de lui-même.
Hein. Il s'amuse beaucoup avec la mort, de toute façon, dans ce film. Il y a une scène très drôle, et je vous propose qu'on l'écoute, parce qu'il y a une scène très drôle où Robespierre, donc interprété par Jacques Berthier, vient rendre visite à Louis XVI. Et Marie-Antoinette, interprétée par Lana Marconi, qui était l'épouse, la dernière épouse donc de Sacha Guitry. On y trouve Lavoisier, la princesse de Lamballe et le poète Chénier. Et tous, à la fin du film, vont finir guillotinés. Écoutez la discussion, la manière qu'a Guitry de mettre en scène l'annonce de cette fin.
Quelle est à votre avis la première mesure qu'il me sera demandé de prendre ?
L'abolition de la peine de mort.
C'est une bonne idée.
Excellente.
Et aussitôt après l'abolition de la peine de mort ?
La Bastille.
Pour qui ?
Plus pour personne, madame.
La Bastille n'est qu'un symbole.
Justement. Depuis le 2 janvier de la présente année, un seul détenu en a franchi le seuil. Révillon. Encore qu'il s'y soit fait incarcérer volontairement.
Et si je vous disais que depuis plus d'un an, par mesure d'économie, j'envisage précisément la démolition, je n'en serais pas surpris.
Eh bien, approuvez-vous cette démolition ?
Je pense qu'il faudrait en laisser l'initiative au peuple. Ce serait sa revanche. Il vaut mieux qu'il la prenne que de la lui donner. On peut l'y inciter. Et si Sa Majesté voulait bien ne pas trop défendre la Bastille, elle éviterait ainsi bien des morts inutiles. Monsieur Chénier, qu'en pensez-vous, vous qui avez écrit « Ô sainte égalité, dissipe nos ténèbres, renverse les verrous, les bastilles funèbres ?»«
Ô sainte égalité, vous avez tout prévu, poète. » Et vous voilà bien à l'abri de représailles éventuelles.
Qui parle ici de représailles ?
C'est le premier mauvais calcul que fait monsieur de Lavoisier.
Je ne suis pas de Lavoisier.
Ce n'est qu'un oubli de ma part. Et votre génie saurait vous épargner toute représailles éventuelles.
Je veux le croire, sire. Et je ne me vois pas mourant sur l'échafaud.
Ni moi non plus.
Ni moi.
Ni moi.
Ni moi.
Ni moi non plus, d'ailleurs.
Et pourtant, tous les six... Il devait y passer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Il faut imaginer qu'à l'écran, on voit le visage de chacun des personnages qui se relèvent au moment où Guitry décompte le nombre de morts à venir.
Le roulement de tambour, comme ça, chacun baisse brutalement la tête comme s'il allait la perdre. Alors là, c'est une sorte d'invention comme ça, historique évidemment, avec une faute que les historiens ont tous relevé, c'est le fait par exemple que la Lamballe n'est pas morte sur l'échafaud, elle a été massacrée dans la rue. Donc, mais on est vraiment dans le sorte de recomposition comme ça que propose Guitry et qui à chaque fois passe par un état du corps, c'est ça qui moi m'intéresse beaucoup. C'est vraiment une histoire incarnée, alors là de façon à la fois drôle et morbide quand même, tragique. Et c'est intéressant de voir que Guitry, donc, qui assume complètement cela et qui joue Louis XIV, donc il va jusqu'à se montrer en train de quasiment mourir de ce corps délabré qui est le sien et d'une certaine manière celui du roi Louis XIV. Et à partir de ce moment-là, le film, il faut voir que à ce corps qui disparaît, qui est celui de Louis XIV, Guitry, fait succéder à un moment qui est peut-être le moment dont Guitry est le plus fier, hein, qui est ce moment où les 300 marches du château de Versailles sont comme ça mis en scène avec cette sorte de grand corps de la nation, hein, où vont défiler comme ça tous les acteurs qui ont joué dans le film et plus encore, puisqu'on va trouver, d'ailleurs Guitry dit, mais là encore c'est une faute historique puisqu'on va trouver Louis XV et Clémenceau côte à côte. Donc voilà un anachronisme, voilà une erreur historique, mais en même temps il y a quelque chose de tout à fait juste dans ce grand corps qui majestueusement comme ça descend les 300 marches de l'escalier d'honneur de Versailles. Guitry parvient à filmer une sorte de nation incarnée. Et donc, se succèdent dans le film à ce moment-là, à la fin du film, à la fois le corps réel en quelque sorte du roi Louis XIV qui est en train de mourir, et puis le corps symbolique de la nation. Et donc on retrouve quelque chose qui est quand même une des grandes trouvailles de Guitry et de l'historiographie, là où Guitry retrouve l'historiographie de l'époque. C'est exactement à ce moment-là que Ernst Kantorowicz théorise les deux corps du roi. Hein, et donc on trouve ici, alors les deux corps du roi, c'est quoi? C'est le corps réel du roi qui meurt et qui est remplacé immédiatement dans le cérémonial de la monarchie française, hein, étudié par Kantorowicz ou Guizet, par une sorte de fétiche de symbole du corps du roi qui signifie la continuité royale. Le corps du roi est mort, mais le nouveau roi arrive et dans l'interstice entre ces deux rois, il y a un corps symbolique qui représente, qui fixe la majesté royale corporellement. Eh bien, Guitry fait la même chose, filme la même chose. Il montre la mort de Louis XIV, la mort sur son propre corps à lui, le délabrement de la monarchie, voilà. Et puis Versailles à ce moment-là est d'ailleurs un château en ruine, donc voilà, il y a des ruines partout. Et qu'est-ce qu'il montre ensuite? C'est ce grand corps de la nation, au contraire très majestueux, comme ça, qui défile. Donc il est vraiment sur... évidemment, je ne vais pas aller jusqu'à dire que Guitry a lu Kantorowicz, mais il est sur une sorte d'intuition comme ça de l'incarnation de l'histoire qui est tout à fait proche de ce que un grand historien comme Ernst Kantorowicz à ce moment-là peut écrire sur les deux corps du roi.
Eh ben, on va se quitter avec cette dernière scène, Antoine de Beck, hein, les 300 marches du grand escalier, des héros d'armes, on couronne le fait et la musique éclate, et tout en haut paraît Louis XIV d'abord, puis sans ordre respecté, ce sont 600 ou 700 seigneurs, soldats, rois, reines, ecclésiastiques, courtisans, favoris, ministres, magistrats. Et puis ce sont des Jacobins, des sans-culottes. Et puis c'est l'empereur avec ses grenadiers. Et puis c'est Clémenceau devant un régiment de ceux qui firent la Grande Guerre. Puis les drapeaux de tous les pays. Puis le nôtre, enfin, qui monte dans le ciel. Merci beaucoup Antoine de Beck.
Merci.
Ce qui prime tout, c'est de se souvenir que toute l'histoire de notre pays s'est déroulée dans ce château pendant plus de 300 ans. Et que ce soit dans cette pièce ou dans la pièce suivante, que Louis XIV ait dit à Molière « Bravo, à Turenne, merci, à La Vallière, je t'aime ». L'importance, c'est qu'il l'ait dit, n'est-ce pas? Maintenant, si ça vous plaît à vous, d'imaginer que Voltaire va ouvrir cette porte ou que la Pompadour se promène dans le parc avec Jean de La Fontaine, ne vous en privez pas. Les omissions, les erreurs, tout comme les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet, n'est-ce pas? Et si ça me plaît à moi de les imaginer tous, pêle-mêle, descendant le plus bel escalier du monde, c'est mon droit. Et justement, je les imagine en ce moment. Je les vois.
Antoine de Beck, enfin le mot fin, reggae, hein, comme l'aimait à le faire Guitry pour dire ah non, ça jamais.
Et puis un mot fin qui arrive, la descente de l'escalier, ça prend bien 5 bonnes minutes.
Hein. C'est ça, c'est une longue fin après un film qui dure 3 heures. Merci en tout cas beaucoup d'être venu nous parler de Si Versailles m'était compté aujourd'hui. Et je renvoie à vos ouvrages L'Histoire Caméra, disponible chez Gallimard, et puis Jean-Pierre Melville, un tout autre sujet, vous reviendrez en parler, j'espère, Une vie, aux éditions du Seuil. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté cette semaine par Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour, chère Anastasia.
Bonjour, Adèle.
Comme tous les jours, vous nous parlez de la philosophie d'un point de vue de l'actualité. Alors, quelle actu a retenu votre attention aujourd'hui?
Alors voilà. Dans les livres de la rentrée, un a retenu mon attention. C'est le nouveau pouvoir de Régis Debray. J'aimerais vous en parler aujourd'hui. Un passage particulièrement m'a marqué. Je cite. « Nous étions en France catholiques. Pouvons-nous demain devenir néo-protestants et troquer sans regret la virtu contre la vertu ?» That is the question. Les pays issus de la réforme ont un avantage sur leurs voisins, plus arriérés. Ils ne mettent pas de volets aux fenêtres. La vertu cultive les maisons de verre. Le vice, les maisons closes. Les prostituées à Amsterdam sont en vitrine. Un citoyen digne de ce nom, dans ces contrées nordiques, ne traverse pas au rouge une rue déserte à 3 heures du matin. Dans la demeure mal chauffée du pasteur, les descendants d'Adam et d'Ève ne trichent pas avec le fisc. On fait du piano et on lit la Bible, le soir, à voix haute en famille. Fermez les guillemets. Qu'est-ce que nous dit donc Régis Debray, et qui nous renseigne sur des différences culturelles indépassables, fondées non seulement philosophiquement, mais aussi théologiquement? Tout d'abord, revenons sur cette différence que Debray veut décisive entre la virtus, concept qui nous vient de la Rome antique et repris par Machiavel, et la vertu, à la façon américaine et mondialisée. La virtus se définit chez les Romains comme la vaillance, la virilité, l'excellence, le courage et le caractère. Notons d'ailleurs qu'elle ne sert pas seulement à caractériser les hommes. Pensons par exemple à une figure déterminante dans le monde gréco-romain, le dieu de la guerre, de la sagesse, de la stratégie, de l'intelligence est une déesse qui s'appelle Minerve à Rome et Athéna à Athènes. Eh bien cette virtus, vertu du courage et de la décision, marquée par la nécessité de la guerre, le destin tragique, le sacrifice inévitable, a quelque chose à voir avec cette tension permanente, si bien renseigné par Nietzsche, qui traverse l'Antiquité. Cette tension entre l'Apollonien et le Dionysiaque, c'est-à-dire d'un côté le monde de l'ordre, de la mesure et de la maîtrise de soi, et de l'autre côté le monde du désir, de la démesure, ivre et incertain. L'équilibre du monde et l'équilibre de l'homme tiennent à cette contradiction. Différemment, cette contradiction est aussi présente, sans doute, dans ce que Régis Debray nomme la catholaïcité. En parlant de catholaïcité, il renvoie sans doute à la fois quelque chose de typiquement chrétien, à savoir ces retournements permanents que nous offre la Bible, où à l'image de Sainte Marie-Madeleine, les plus grandes prostituées font aussi les plus grandes saintes, mais aussi de typiquement français, puisqu'en France, dans le panthéon littéraire national, se côtoient le marquis de Sade et Georges Bernanos. Autrement dit, et pour aller vite, nous ne pensons pas que le vice est une vertu, mais nous savons que la vertu ne se gagne souvent qu'au prix du vice. Et pour le dire autrement encore, nous ne croyons pas que la nature humaine puisse échapper à cette tension profonde entre le bien et le mal. Pire encore, nous trouvons parfois du charme aux voyous, à ceux qui trichent avec le fisc, à ceux qui, au lieu de lire la Bible chez eux le soir, mentent et se cachent pour aller voir des prostituées. Nous sommes donc bien incapables d'enlever les volets de nos fenêtres, parce que d'une part, nous pensons qu'il y a des endroits où nous avons le droit d'être seuls, de ne plus être exposés au jugement du monde, et que d'autre part, nous ne sommes pas dupes du fait que tout le monde a quelque chose à cacher, et que c'est même ce que nous cachons qui fait souvent de nous des hommes. Et j'ajouterais que si les volets sont ouverts, alors nous devenons suspicieux, et nous nous demandons « Qu'a-t-il cet homme à ouvrir ses volets? Mon Dieu, quel cadavre doit-il cacher dans sa cave ?» Régis Debray rappelle qu'Eric Schmidt, le PDG de Google, a pu affirmer « Seules les personnes qui ont des choses à se reprocher se soucient de leurs données personnelles. » Et vous voyez comme tout d'un coup, cette dichotomie profonde éclaire un débat tout à fait contemporain. Je répète, « Seules les personnes qui ont des choses à se reprocher se soucient de leurs données personnelles. » Eh bien, nous avons tout à fait raison de nous inquiéter. Et cela, non pas parce que nous avons peur d'avoir quelque chose à nous reprocher, mais parce que nous le savons bien, nous avons tous eu ou nous aurons tous un jour quelque chose à nous reprocher. Et cela n'est pas grave, parce qu'ainsi va le monde et ainsi va l'homme. En cela, faisons en sorte, avec Régis Debray, de ne jamais céder à l'empire anonyme des fausses vertus.
Merci Anastasia Colosimo. Rappelez-nous le titre du livre de Régis Debray que vous citiez.
C'est Le Nouveau Pouvoir.
Très bien, c'est noté. À demain.
À demain.
Merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Caroline Bactou, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouverez la semaine prochaine, Élise Le et Victoria Asper qui est à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, nous parlerons d'Emmanuel Berle en compagnie de Jean d'Ormesson et d'Olivier Filippona. D'ici là, pour écouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site des Chemins de la Philosophie. Vous trouverez les indications bibliographiques et cinématographiques concernant l'émission du jour. Et puis vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.